Chaim Corsia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le grand rabbin de France et avec vous ce soir nous allons parler du déferlement de haine antisémite qui touche la France mais aussi bon nombre de démocraties dans le monde. Il ne se passe pas un jour sans que l'on signale en France mais aussi en Europe un acte antisémite. Pour beaucoup de nos corrélégionnaires, ils vivent deux réalités. Celle tout d'abord de se sentir seul et abandonné face à cette haine et l'autre réalité c'est qu'ils voient que rien n'est fait pour l'endiguer. Est-ce que vous partagez avec eux ces deux réalités?
Comme toute la communauté juive en France et malheureusement ailleurs dans le monde aussi, je vois cette montée terrifiante qui fait que nous étions il y a 25 ans à des actes antisémites qu'on mesurait en dizaines par an, puis on est passé en centaines et maintenant nous sommes en milliers. Et c'est terrifiant parce que c'est vrai que cette litanie quotidienne est terriblement lourde, difficile à supporter, anxiogène, et elle pose de grandes questions sur l'état de nos démocraties. Maintenant, seul, je ne pense pas, et j'en tiens pour preuve trois éléments essentiels. Le premier, c'est que j'étais à Rouen avec le congrès des rabbins. J'ai voulu que le congrès rabbinique cette année, en mai, ait lieu à Rouen, qui était une ville qui avait subi un attentat antisémite. Un terroriste avait incendié la synagogue et j'ai amené l'ensemble du congrès rabbinique avec le grand rabbin d'Israël et le ministre de l'Intérieur à la synagogue et j'ai vu la mobilisation incroyable locale. La deuxième, j'étais ce dimanche à la Grande Motte où il y a exactement un an un autre terroriste a tenté d'incendier la synagogue et localement il y a eu une vague de soutien à la communauté avec l'évêque qui a fait une quête à l'église pour aider à la reconstruction des synagogues, une véritable mobilisation locale. Et puis hier, j'étais à Neuilly, où le maire de Neuilly, avec le préfet des Hauts-de-Seine, a remis la médaille du courage et de l'engagement citoyen à trois personnes qui ont aidé le rabbin Lemel, qui a été agressé par un porteur de haine antisémite. Et ces trois personnes se sont interposées. Et là, je vous montre le plus beau de ce qui s'élève contre l'antisémitisme. Pas une politique publique, des citoyens, des citoyennes qui disent « nous voici ». Capables de dire... Donc, au fond, nous ne sommes pas seuls, même si c'est vrai qu'on a le sentiment que personne qui ne vit cette situation ne peut la comprendre. Maintenant, il faut qu'il y ait une politique de fermeté. Et c'est ce que nous essayons de porter avec le président du consistoire, avec l'ensemble des autorités de la communauté juive, le CRIF, le Fonds social. Nous sommes avec le président du consistoire Elie Korcha à un mois des fêtes, début des grandes fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Je peux vous dire que nous allons avoir des réunions permanentes, des contacts permanents avec l'État, le gouvernement, les préfets, pour que les fêtes se passent de la meilleure façon possible, comme c'est le cas d'ailleurs pour les fêtes chrétiennes au moment de l'Assomption, les églises ont été protégées par le ministère. Donc, il y a ce travail, je comprends ce qu'on vit, parce que je le vis aussi, mais je vois qu'il y a la ressource dans notre société pour ne pas être seul, parce que nous ne sommes pas seuls.
Alors, je parlais tout à l'heure, je vous disais que le sentiment aussi, c'est que rien n'est fait pour l'endiguer. Un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche, qui a été publié hier, révèle que 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France. Seuls 37% des sondés déclarent lui accorder leur confiance, tandis que 1% ne se prononce pas. Chaim Corsia, vous êtes le grand rabbin de France. Quelles seraient pour vous les mesures fortes et immédiates à prendre par les pouvoirs publics pour que ce sentiment, ou en tout cas cette réalité que les Français juifs vivent, peut changer?
Nous demandons, moi personnellement, je demande depuis des années que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Je prends un exemple simple, mais qui permet de bien voir les choses. Quand le président Jacques Chirac constate qu'il y a 12 000 morts par an sur les routes en France, il trouve que c'est insupportable, et il dit on va en faire une grande cause nationale. Et on met en place des radars, on perd tous des points, on perd même le permis parfois, il y a une intransigeance totale contre tout dépassement. Bon, en réalité, on a divisé le nombre de morts sur les routes par 4. Vous entendez ? Par 4. Ça veut dire que de 12 000, nous sommes passés à un peu plus de 3 000, ce qui est encore insupportable. Mais 3 000, c'est moins que 12 000. Donc si on faisait le même schéma sur la lutte contre l'antisémitisme et qu'on mette en fait toute la machine de l'État dans cette lutte, et si on faisait diviser par 4 le nombre d'actes antisémites, croyez-moi, on reviendrait à l'étiage avant le 7 octobre. Mmh. Ce qui ne serait pas une grande victoire, mais ce qui serait au moins une avancée. Comment faire ? Par exemple, nous demandons, avec le président de Consistoire, on l'a réitéré récemment encore, que de la même façon qu'on suive le nombre d'actes antisémites avec le ministère de l'Intérieur, qu'on suive avec le ministère de la Justice les peines données par les magistrats. Parce que quelqu'un est arrêté. La police fait un travail remarquable. Regardez avec les deux crapules qui ont coupé l'arbre dédié à la mémoire d'Ilan Halimi, ils ont été arrêtés. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir comme sanction ? Regardez, il y a la semaine dernière, quelqu'un qui avait tagué des voitures à Châtel a eu 8 mois de prison ferme. Voilà une peine qui me semble claire et dissuasive. La société n'a aucune compassion pour quelqu'un qui marque ce type d'antisémitisme. Parfait. Mais il faut un suivi de ces peines. Nous demandons ce suivi. Je pense aussi qu'on pourra avoir une sorte de parquet national pour les actes racistes et antisémites. Non pas que tous ces actes remontent à Paris, mais que les parquets locaux soient suivis par un parquet national, qui est une forme d'uniformisation des sanctions, des procédures, et qu'on soit capable de le faire de manière la plus rapide qui soit. Quand vous êtes attrapé, et qu'on vous juge 8 mois, 1 an, 2 ans après, mais quel sens a cela ? Y compris pour la victime. Comment la victime sent une réparation ? Et c'est ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. La notion de réparation est importante. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait à la fois une fermeté, un suivi des peines et une réparation ? Et puis, il y a quelque chose qui me semble essentiel. Comment quelqu'un qui a été condamné pour racisme ou antisémitisme peut oser se présenter à une élection ensuite ? Il devrait y avoir une peine d'inéligibilité absolue et immédiate pour quiconque est condamné pour antisémitisme ou racisme. Une façon de dire, mais ce n'est pas possible d'oser représenter une parcelle de ce qu'est la France quand on a été condamné et convaincu d'antisémitisme ou de racisme. Puis une dissolution plus rapide de tout groupe, association qui se livre à l'antisémitisme. Et puis, j'ai vu, il faut prendre des exemples partout, à Dubaï, c'est pas compliqué. Vous vous livrez à un acte d'antisémitisme, vous êtes renvoyé de Dubaï, si vous n'êtes pas dubaïote. Ben, moi, je pense que si quelqu'un, un étranger, convaincu d'antisémitisme ou de racisme, doit être renvoyé, il n'a pas sa place dans l'espérance collective qu'est la nation française.
Alors, je reviens sur le suivi des actes antisémites par la justice. Mmh. L'année dernière, 1570 actes antisémites, 646 au premier semestre 2025. Ce qui serait intéressant de savoir, monsieur le grand rabbin de France, c'est sur tous ces actes, combien ont été classés sans suite, combien ont été sanctionnés, qui sont les responsables de ces actes, quelles sanctions ont été prononcées à leur rencontre. On n'a aucune information du ministère de la Justice. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est voulu, c'est volontaire ?
Non, c'est que la justice a ses problèmes à régler. Mais ce n'est pas une question qui a été posée. Nous demandons cela avec le président du Consistoire depuis peu de temps, et c'est quelque chose qui nous paraît évident. Il faut qu'il y ait suivi. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est parfaitement sur cette ligne. Il faut donc mettre en place les outils statistiques et les personnels pour faire un véritable suivi. Mais je vous assure qu'il n'y a aucune procédure qui est laissée sans suite. Et regardez, le taux d'élucidation est assez impressionnant, c'est-à-dire le nombre de personnes arrêtées. Vous vous rendez compte que pour retrouver les deux crapules qui ont fait ça avec l'arme de Ilan, il y a des tests ADN et j'ai vu l'engagement de la police et de la préfecture de police pour faire en sorte que cette enquête aboutisse. Il en allait presque de l'honneur de notre société. Je trouve que chaque enquête, je vois la mobilisation des forces de l'ordre. Chaque enquête, c'est comme si c'était l'enquête absolue pour le service en charge. Donc, il faut rendre grâce à l'État, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie, et maintenant aux forces de police municipales, qui s'engagent aussi dans la protection de nos sites, de nos lieux, et dans les enquêtes pour retrouver les coupables.
Raïm Corsia, je vous ai écouté hier chez nos confrères de BFM et je vous ai trouvé très indulgent avec le président de la République. C'est vrai que les pouvoirs publics font beaucoup pour la sécurité des Français juifs. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël en France le reconnaît également. Mais certaines déclarations ou actes du président Emmanuel Macron peuvent interroger. Sa non-participation à la grande marche contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023.
C'est vrai, j'avais suggéré qu'il participe, il n'a pas fait.
Sur l'universalisme juif, sa déclaration disant aussi et rappelant à Israël que Israël avait été créé par une décision de l'ONU. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question, est-ce qu'un prochain président pourrait venir et dire il ne faut pas oublier en s'adressant aux Français juifs que vous êtes Français par la constituante de 1791, sous-entendu que demain ben, vous pouvez ne plus l'être Français.
Bon, d'abord ça me touche parce que il se trouve que c'est le 27 septembre 1791 et je suis très sensible à ça. D'ailleurs, je remercie chaque fois que je le peux le président du CRIF qui organise chaque année autour du 27 septembre un colloque, une réflexion autour de notre participation à ce qu'est l'espérance de la France. Mais aucun président ne pourrait le changer et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'éthos juif, ce que nous sommes, a été intimement lié à tous les combats pour la République. En fait, l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire pour défendre un homme, mais c'est la défense de la République. Et donc, défendre Dreyfus, c'est défendre la République. D'ailleurs, les Dreyfusards étaient des républicains, les anti-Dreyfusards considèrent la République comme la gueuse. Donc, c'était clair dès là. Ceux qui étaient républicains en 40 étaient donc pour la place des Juifs en France, ceux qui étaient anti-républicains étaient contre la place des Juifs en France. Donc, c'est pas compliqué. Si un jour, quelqu'un, par malheur, met en cause le statut des Juifs, c'est que nous ne sommes plus en République. Et là, c'est une autre histoire. C'est pratiquement, disons-le, de la science-fiction.
Bon, et
En revanche, pour l'universalisme du judaïsme, je revendique cette part d'universalisme. Je ne sais pas.
D'après le président, on l'aurait perdu.
Non, pas du tout. Je reprends ce qu'avait dit le grand rabbin Kaplan, paix à son âme, qui, avec une force extraordinaire, avait envoyé une lettre à Xavier Vallat le 3 juillet 1941, lorsqu'il est allé se faire inscrire à la mairie de QC en tant que juif. Il écrit à Vallat, qui était le directeur du service pour la question juive, il lui écrit « J'ai répondu à l'obligation qui est faite de nous inscrire à la mairie en tant que juif. Comme pour moi ce n'est pas une honte que d'être juif, je le fais avec fierté, même si je ne suis pas dupe du fait que pour vous, il ne s'agissait pas de nous accorder le moindre honneur. » Mais moi je revendique cette part d'universalisme du judaïsme et je dis que justement la grandeur du judaïsme, c'est ce qu'a dit Edmond Flegg, par exemple dans « Pourquoi je suis juif ?» Je suis juif parce que partout où pleure une souffrance, le juif pleure avec elle. Et au fond, c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a aucun juif qui se réjouit de la souffrance quelque part dans le monde. Et donc cet universalisme, pour moi, ce n'est pas une attaque contre le judaïsme, c'est ce que nous sommes et ce que nous sommes encore aujourd'hui, évidemment.
Alors, on a beaucoup parlé de la France, mais les actes antisémites concernent l'Europe. Est-ce que...
Oh, pardon.
Oui.
Et les États-Unis.
Ah, je parlais de grande démocratie au début de notre entretien.
Vous voulez dire donc que les États-Unis sont pas une
grande
démocratie ?
Non, je parlais des actes antisémites dans bon nombre de démocraties.
Parce que les États-Unis, par exemple, c'est intéressant. Ouais. J'ai vu que l'ambassadeur a écrit une lettre à peu de choses près identique au président. L'une des demandes que nous formulons, les représentants de la communauté juive en France, c'est que les grands pourvoyeurs de services Internet, les GAFAM, comme on les appelle, Google, Internet,
Facebook, Apple, etc.
X, maintenant Twitter, etc. Ouais. Et une véritable modération, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et donc la haine permanente se déverse sur Internet, vous le savez. Est-ce que vous savez quand même que Samuel Paty a été assassiné uniquement avec une haine qui est montée, qui s'est construite et qui a abouti sur Internet? Le monde virtuel ne reste pas dans le monde virtuel. Il impacte le monde réel. Donc moi je dis aux États-Unis, formidable, vous voulez lutter avec nous contre l'antisémitisme? Eh bien, faites en sorte que vos entreprises soient capables à la fois de modérer et d'éliminer des contenus insupportables. Au fond, la lutte contre l'antisémitisme, elle ne peut pas être instrumentalisée par les uns ou par les autres. Elle doit être un objectif commun qui appelle au moins une unité, j'allais dire une union sacrée, pour aborder ensemble, au niveau mondial, cette lutte contre ce venin permanent de nos sociétés.
Est-ce que les mesures dont vous parliez pour la France, elles peuvent s'appliquer à l'Europe et aux États-Unis?
Elles peuvent parfaitement s'appliquer à l'Europe et aux États-Unis. Et d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, quand il était ministre de la Justice, avait porté, au moment où la France était présidente de l'Europe, pendant nos 6 mois de présidence européenne, il avait porté une loi justement, d'amélioration de la lutte contre l'antisémitisme, qui avait été adopté ensuite par les 27 États de l'Europe. Donc, en fait, quand on porte une idée forte, on est capable de la faire adopter par tout le monde. Donc, moi, je dis, il faut absolument continuer. Regardez, on va encore dire que je défends le président Macron, vous allez m'accuser de cela. Moi, j'essaie d'être juste. Et je vous dis, par exemple, que c'était une erreur de mon point de vue qu'il n'aille pas dans cette marche qui était évidente avec deux mots d'ordre simples, pour la République, contre l'antisémitisme. Bon, il n'a pas voulu, c'est aussi son choix. Mais le premier qui dit l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, c'est lui, c'est le président Macron, à la cérémonie de juillet 2017, à laquelle d'ailleurs il invite le Premier ministre Benjamin Netanyahou, première fois qu'il est invité à cette cérémonie, de façon de dire, notre combat est commun. Et la lutte contre l'antisionisme, c'est-à-dire pour défendre l'existence de l'État d'Israël, est quelque chose qui est au cœur de notre façon d'être français, d'être républicain, oui, d'être universel. Donc, on peut critiquer telle ou telle chose, mais comme j'étais et vous étiez le 4 février 2024 aux Invalides avec les familles des victimes du 7 octobre et que nous sommes en France le seul pays au monde à avoir organisé une cérémonie d'hommage à ces morts parce que nous les avons considérés aussi comme nos morts et pas uniquement les morts français. Je dis, oui, je comprends qu'on trouve qu'on ne fasse pas assez, mais moi je vous dis, on ne fait jamais assez quand on doit lutter contre l'antisémitisme. La pire des choses serait de dire, on a fait le job. Non, on ne fait jamais assez. On essaye et on adapte. Parce que oui, l'antisémitisme est un virus mutant qui change d'orientation, d'origine, vous parlez des origines, qui change d'origine, mais qui doit toujours être combattu avec, si possible, un train d'avance. Et je crois qu'il faut être capable d'associer, oui, toutes les démocraties, toutes les capacités à penser la société et le monde, à la fois la fermeté, mais aussi l'éducation. Mais aussi, regardez à quel point c'est une nouveauté de l'antisémitisme, en France en tout cas. C'est des actes perpétrés par des personnes plus jeunes, dans les écoles maintenant, contre des personnes plus jeunes. Donc ça veut dire qu'il faut commencer l'éducation beaucoup plus tôt, avec une force de l'engagement qui appelle à l'union sacrée.
Une dernière question. La rentrée va être difficile en France, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Le gouvernement, politique. Et surtout politique, le gouvernement Bayrou pourrait tomber d'ici le 8 septembre. On sait que dans ces moments très difficiles, l'antisémitisme prend un nouvel essor, on l'a vu pendant le Covid, par exemple, qui n'avait strictement rien à voir, mais on a accusé les Juifs d'en être responsables, en tout cas en partie. Est-ce qu'on doit craindre que cette situation politique n'envenime un peu plus l'antisémitisme ?
C'est malheureusement ce que l'histoire du monde nous montre. Quelle que soit la plaie qui frappe un pays, une société, un continent, les Juifs en sont responsables. Rappelez-vous que un leader iranien avait même estimé que la tempête, sous prétexte qu'elle s'appelait Daniel, était la faute des Juifs. Bon. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il faut, contre cela, avoir plus de fraternité. Et vous savez à quel point j'ai toujours milité pour le dialogue interreligieux. Le 9 décembre dernier, nous étions au Raincy avec le président de la Fédération protestante, le président de la Conférence des évêques, le président des bouddhistes de France, un représentant de l'islam, votre serviteur, et les orthodoxes. Nous étions et on a parlé de laïcité. Et moi, je pense qu'il faut qu'on augmente les lieux de fraternité, les lieux de dialogue interreligieux, qu'on augmente quand le monde autour de nous se défait, c'est nous qui devons alors retisser du lien. Et nous en prenons notre part, la communauté juive en prend notre part, les rabbins, les présents de communauté, au moment des défaites, on reçoit en général nos alter ego, des autres cultes, on reçoit les autorités, pour leur dire que oui, dans nos synagogues, nous prions pour la République. Nous continuons, quoi qu'il y ait, à prier pour la République, pour prier qu'elle reste fidèle à ce qu'elle est, dans son caractère universaliste. Parce que cette République, elle est belle quand elle donne de la place à chacun et chacune. Il se trouve que notre situation, tant que Français juifs, a toujours été un marqueur de l'état d'une société. Si nous sommes heureux, alors c'est que la société est heureuse. Eh bien, je souhaite que nous redevenions, comme le disait l'adage très célèbre, heureux comme des Juifs en France, pour que la France retrouve son bonheur. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait souhaiter dans ce mois de Elul, que cette année et ses vicissitudes terribles disparaissent et que la nouvelle année s'ouvre avec ses bénédictions.
Raïm Gorsia, merci d'avoir été l'invité
merci à vous,
de Radio
Pierre,
Shalom.
Vous êtes toujours aussi présent. Et permettez-moi de vous dire que c'est ce lien avec à la fois les auditeurs, mais beaucoup plus avec la société qui rend votre présence et cette radio aussi importante.
Merci, bonsoir.